France Musique. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Serge Lama, avec lequel se referme cette série d'été, n'est pas seulement l'un des plus grands artistes du chant français, c'est aussi un homme fin, cultivé, passionné de littérature et très attachant. J'avais eu la joie de le recevoir à ce micro, Serge Lama, dans Étonnez-moi Benoît, le 1er juin 2013.
La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres. D'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. Aux nuits ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend. Jeune femme allaitant son enfant, je partirai, skimmer balançant ta mâture. Lève l'ancre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages.
Fertileux îlot, mais oh, mon cœur entend le chant des matelots perdus. Sans mal, ni fertileux îlot, mais oh, mon cœur entend le chant des matelots perdus.
Sans mal, ni fertileux îlot. Mais oh, mon cœur entend le chant des matelots perdus sans mal.
Bonjour Serge Lama.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir sur cette musique symphonique. Hein.
Oui, c'est une musique, en plus c'est une musique que j'ai écrite à moitié, c'est moi qui ai fait la musique en partie avec Carolin Petit qui lui a fait l'orchestration.
Voilà, sur un poème de Mallarmé.
Sur un poème extraordinaire et très célèbre, Ise Marine de Mallarmé. Et que j'adore, et surtout la première phrase, la chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres, quelle trouvaille.
Vous aimez Mallarmé d'une façon générale, vous...
J'aime tous les poètes, parce que tous les poètes ont dit, il n'y a pas de poète mineur pour moi, vous savez, ils ont toujours écrit 7 ou 8 poèmes qui valent l'éternité.
Et celui-là est un grand, mais alors là, c'est donc en 1998, un concert à l'Olympia, pour lequel vous aviez choisi donc, la formule symphonique, ce qui n'a pas été si courant que ça dans votre carrière, c'était un rêve, on peut dire, que vous avez accompli
oui, non,
à ce moment-là.
C'est la seule fois où je l'ai véritablement fait d'une façon sérieuse. Je l'avais fait un petit peu en 81 au Palais des Congrès, mais disons d'une façon plus variétée. Alors que là, on avait fait des efforts sur certaines chansons qui étaient un peu conçues pour ça. On avait fait quelque chose qui ressemblait plus à du symphonique, oui.
Et donc, la plume de compositeur à côté de celle de l'écrivain, elle est importante pour vous aussi ?
Ah non, j'écris pas des musiques en général. Hein. Je fais que des textes. Hein,
mais
tout d'un coup, ça m'est venu sur le Mallarmé. Et j'ai quand même écrit ou co-écrit, parce que je sais pas écrire la musique, je chantais avec la bouche à mes orchestrateurs habituels. J'en chantais les chansons que j'avais écrites, les glycines par exemple, c'est de moi, enfin j'en ai peut-être 10 ou 15% qui sont de moi.
Alors c'était un bonheur particulier pour vous d'être accompagné par toutes ces nappes de cordes, de bois, de cuivre sur une scène ?
Oui, c'est un travail différent, comme je le dis actuellement, je suis sur un yacht actuellement. ans. Ouais. Et là, j'étais vraiment sur un paquebot.
Voilà.
Et vous ne pouvez pas, il n'y a pas la même liberté qu'on peut avoir dans un tour de chant traditionnel musical.
C'est plus cadré.
C'est beaucoup plus cadré. Il ne peut pas faire bouger le chef d'orchestre, peut pas faire bouger le bateau, parce que tout d'un coup, votre humeur est être un peu plus rapide ou être un peu plus ceci ou cela. Là, il faut être aux ordres.
En tout cas, Serge Lama, je suis très, très heureux, et je crois les auditeurs aussi, de vous recevoir aujourd'hui sur France Musique. D'abord parce que vous êtes un classique, un classique de la chanson. Et puis peut-être aussi, pour commencer, on pourrait dire un mot de votre lien à la musique classique. Il est fort, il est faible, il est continu, il est épisodique au grand compositeur, disons.
Il est épisodique sur ce qu'on appelle couramment la musique classique. On lui a trouvé ce nom.
Ouais,
pourquoi classique? Enfin, ça, on peut discuter pendant des heures.
Le classique, le baroque, le
voilà,
moderne.
Voilà, il y a tellement de subdivisions. Mais pour moi, j'ai été élevé dans la musique d'opéra, quoi, d'opéra, voilà, et d'opérette. C'est-à-dire que le Trouvert, toutes les choses de Verdi, de Puccini.
L'art lyrique, donc la voix d'abord.
L'art lyrique, la voix d'abord, oui, c'est ouais. ça. J'étais élevé là-dedans, et donc j'avais tous ces airs dans la tête quand j'étais petit, et très certainement, si j'avais travaillé ma voix dans ce but-là, j'aurais pu devenir un baryton de bonne qualité, je pense, parce que j'avais des ingrédients.
Mais Chopin, Debussy, Ravel, la musique instrumentale, tout ça, c'est...
Tout ça m'intéresse au hasard de l'oreille. C'est-à-dire, c'était au hasard. Tout d'un coup, bien sûr, je suis sensible. Il y a tellement de films qui ont rendu hommage, sans le vouloir,
à ces grands musiciens.
À ces grands musiciens. Bon, il y a tellement eu de grands réalisateurs qui sont des fous de musique et qui glissaient dans leurs films des airs musicaux qui sont devenus célèbres. Ouais. Chez les gens, à cause des films, parfois hélas à cause de la publicité, mais qui sont devenus aussi célèbres à cause des réalisateurs qui se servaient de la musique comme presque d'un personnage.
Chez ceux qui n'avaient pas la culture classique, effectivement.
Oui.
Alors, on l'a compris, c'est pas votre cas. Vous avez grandi dans un milieu de musiciens. On va en parler dans un instant. Mais on va commencer par écouter une chanson. Je sais pas si c'est une chanson de votre enfance, mais ça m'a amusé en préparant cette émission. Vous avez donné deux ou trois références et je dois dire que celle-ci m'a enchanté, mais un peu surpris. Peut-être on en dit un mot avant d'écouter Rina Ketty.
Oui, Rina Ketty, parce que j'ai essayé de vous donner des chansons qui ont marqué quand même des époques et des choses de votre enfance. Rina Ketty, c'est la guerre. Et cette chanson-là, mais elle passait du matin. On ne pouvait pas éviter Rina Ketty, quoi. Ça a été une chanson qui a été dans le cœur des gens pendant, je pense, c'est une chanson seule. A été dans le cœur des gens pendant plus de 10 ans.
Mais vous n'irez pas jusqu'à dire, Serge Lama, que vous avez des souvenirs de la guerre, vous êtes né en 43 quand même.
J'ai des vagues souvenirs, peut-être de choses qu'on m'a racontées, qu'on descendait à la cave, tout ça, à Bordeaux, mais j'ai des souvenirs après beaucoup, parce que c'était juste après la guerre quand même.
Inaketi, Rinaketi, choisi donc par Serge Lama, parce qu'il faut se représenter le tout petit Serge Chauvier au lendemain de la guerre, à Bordeaux, en famille, écoutant, entendant peut-être ça sur un poste de radio.
Sur un poste d'époque, oui. j'étais évidemment branché, l'oreille branchée, collée. Parce qu'à l'époque, on passait de tout à la radio. On passait des chansons, évidemment, mais on passait des pièces de théâtre, on passait des Salacrou, des Guitry,
des auteurs de
cette époque-là. C'était la radio était vraiment constructrice à cette époque-là. C'était
un bon niveau culturel.
On apprenait des choses.
C'est bien. Mais donc vous étiez baigné, donc on l'a vu dans le milieu artistique, parce que votre père Georges Chauvier était donc chanteur d'opérette.
Oui.
Mais donc, il était à Bordeaux à cette époque, il avait passé son prix, je crois.
Il était premier prix du conservatoire de Bordeaux, donc il aurait dû chanter, d'ailleurs, à l'Opéra-Théâtre de Bordeaux. Et pour des raisons que j'ignore, en fait, je ne saurais jamais pourquoi, mais dont j'ai entendu parler toute ma vie, il n'a pas fait ce satané théâtre qui certainement aurait changé sa vie. Parce que quand on rentrait là-dedans, c'est un peu comme on rentre à la Comédie Française,
on entrait dans la troupe et on y était, on pouvait
y rester très longtemps.
Et la troupe de Bordeaux, en plus, était très importante.
Voilà, c'était un moment. Et puis quand Marcel Hamon me parle de mon père, il me dit que mon père, à l'époque, quand on disait Chauvier, c'était une star à Bordeaux, il me dit. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est...
Notre ami Marcel l'a connu en activité encore.
Il l'a connu en activité. Et quand il était là-bas, pour lui, il m'a dit, c'était pour nous, c'était Chauvier, c'était une star. C'était quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui a joué? D'ailleurs, est-ce qu'il faisait pas trop de variété par ailleurs à côté et que le théâtre de Bordeaux a pas voulu aller savoir?
Et voilà, parce que comment est-ce qu'il gagnait sa vie alors puisqu'il n'était pas dans la troupe?
Il était boulanger, vous savez, il a tout fait, mon père. Il a été tous les petits métiers.
Mais c'est très présent dans vos chansons, ce destin de votre père, cette espèce de destin d'artiste un peu brisé malgré tout. On a l'impression que c'est quelque chose qui revient régulièrement sous votre plume sous votre voix.
Ma seule chanson autobiographique, c'est Le Temps de la Rengaine, et dans Le Temps de la Rengaine, c'est exactement ce qui s'est passé.
Qu'on retrouve dans votre dernier album, d'ailleurs.
Ce que je raconte. Et c'est ça, mon enfance a été détériorée, dirais-je, par cet arrêt de mon père quand j'étais déjà adolescent, ce qui n'est pas bon.
Voilà, parce que votre mère, elle voulait qu'il gagne sa vie, quitte à renoncer à son métier d'une certaine façon.
Elle voulait surtout qu'il renonce à son métier, elle était jalouse. Ma mère est un être paradoxal. Je pense qu'elle a épousé mon père parce qu'il était beau, qu'il chantait et qu'il était attirant. Ouais. Et qu'elle a poussé toute sa vie à faire autre chose que ce pourquoi elle l'avait épousé.
C'est
pas la seule, on en connaît d'autres, je sais qu'il y a d'autres histoires comme ça. Mais pour moi, ça a été un drame.
En tout cas, toute la famille donc est montée à Paris au moment où il pensait encore faire carrière de chanteur. Il a chanté assez régulièrement dans un théâtre qui n'existe plus, le petit théâtre des Capucines.
Tout à fait, il a chanté, mais il était... Là aussi, c'est mon père est quelqu'un qui n'a pas de chance, qui n'a pas su pousser le destin. Et là aussi, il était, je me souviens, doublure. C'est-à-dire qu'il ne chantait pas tous les soirs. Il chantait irrégulièrement. Ses plus grands titres de noblesse, si on peut dire, ça a été d'être doublure tout de même de Georges Guettari à l'époque pour les anciens. Ça dira quelque chose dans La Route Fleurie. Ça a été sa dernière prestation avant qu'il ne se quitte le métier. Et c'était malheureusement, dans les chansons de Bilitis, il avait obtenu des rôles moins importants qu'il aurait dû avoir.
On retrouve quand même son nom dans un CD qui existe, la réédition de cette opéra de Joseph Kosma, les chansons de Bilitis, et on voit le nom de Georges Chauvier.
Oui, parce qu'il était dans la distribution quand même, oui.
Et puis on a retrouvé aussi ce vieux document dans notre belle discothèque.
Rose, Marguerite et Violette, trois demoiselles de Robinson, ont un matin perdu la tête pour trois jolis garçons. En déjeunant sous les ombrages des marronniers de Robinson, elles rêvaient de mariage et leur cœur était plein de chansons. Si Rose dans sa robe rose était la plus jolie, Marguerite avec sa collerette était la plus coquette, et Violette avait dans les yeux tant de mélancolie que les garçons tout hésitants se demandaient le cœur battant. Marguerite ou Violette, l'amour chantait dans les buissons, et faisait tourner la tête des demoiselles de Robinson. Comment résister au parfum des sous-bois, au soleil qui fleurit les dimanches? Comment résister au petit vin d'Arbois que l'on boit? Que l'on boit dans les bois. Rose, Marguerite et Violette, sous les tonnelles de Robinson, se sont laissés compter fleurettes par les jolis garçons. Et l'on m'a dit qu'après la danse, sous les lampions de Robinson, leurs trois bonnets, quelle imprudence, ont volé par-dessus les buissons. Mais Rose, dans sa robe rose, était tellement jolie. Marguerite, avec sa collerette, était tellement coquette. Et Violette avait dans les yeux tant de mélancolie que les garçons gantés de blanc se sont rendus et les parents. Et c'est ainsi qu'un jour de fête se sont mariés à l'unisson Rose, Marguerite et Violette, les demoiselles de Robinson. Les demoiselles de Robinson.
Serge Lama a un large sourire devant moi en entendant le 78 tours de son père.
Ah oui, ça me rappelle Georges tellement Chauvier. De souvenirs. Ça, c'était l'époque qu'il chantait ça. Quand il chante, j'allais le voir chanter les demoiselles de
Robinson. Ah oui, vous l'avez vu le chanter.
Oui, c'est, je l'ai vu chanter dans des endroits où il faisait des premières parties. Oui.
Mais alors, vous avez pensé à, quand même à un moment embrasser la carrière classique vous-même?
Disons que je pense que mon père étant parti vers une carrière de variété, si mon père avait réussi dans les variétés, j'aurais peut-être pu faire, en travaillant beaucoup, un assez bon baryton. Il y a quelques beaux rôles quand même dans le répertoire. Et autrement, je pense que j'aurais été auteur, parce qu'auteur, c'est mon premier métier. Quand
voilà,
même.
Vous êtes un homme d'écriture d'abord.
Je suis d'abord un homme d'écriture. J'ai passé ma vie à écrire très jeune, et je crois que finalement, c'est ce qui me manquerait le plus, c'est de ne plus avoir d'idée d'auteur. C'est la chose qui compte le plus pour moi.
Il faut dire que dès la fin des années 50, hein, vous vous éloignez un peu de votre famille, vous prenez votre liberté, puis vous allez faire votre service militaire en Algérie, mais vous écrivez déjà beaucoup de ce qui vont devenir vos chansons à ce moment-là.
Mais j'ai commencé à écrire à 11 ans et demi. J'ai d'ailleurs mis dans mon dernier disque ma première chanson.
Ouais.
Et j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'écrivais quand j'ai commencé le métier, j'avais déjà 150 chansons. J'avais déjà beaucoup écrit. J'avais écrit des pièces de théâtre, j'avais écrit des livres.
Ah oui, c'était pas seulement la chanson.
Ah non, j'écrivais tout le temps. Je pensais qu'à ça. Comme j'étais très enfermé parce que ma mère voulait pas que je sorte, je passais mon temps à lire et à écrire. Et j'ai lu des livres dans le désordre très très jeune que je n'aurais pas dû lire. Ce qui fait que ça a formé mon esprit d'une façon un peu spéciale, on faut bien le dire.
Et vous avez rodé vos chansons, vous êtes parti donc effectivement faire votre service militaire, vous êtes revenu en France. Et là, il y a évidemment quelque chose qui est important pour un jeune chanteur de l'époque, qu'on n'imagine plus très très bien aujourd'hui, ce sont tous ces cabarets où on pouvait commencer une carrière. Et vous, ça a été l'Écluse sur la rive gauche à Paris, qui était vraiment évidemment un des hauts lieux de...
C'était même le hall de la chanson. De la rive gauche, c'était le plus prisé de la rive gauche à l'époque. Parce qu'on était à la fin des cabarets déjà, quand je suis arrivé en 64, ça a duré encore une dizaine d'années, mais c'était déjà le commencement de la fin. Sans ça, avant, il y avait eu des cabarets formidables, comme la Rose Rouge, qui a été comme un cabaret, des cabarets, quoi, qui a été après la guerre. Moi, je suis arrivé à l'Écluse, mais c'était Barbara, là, qui était la vedette de ce cabaret. Mais elle n'était pas encore Barbara, la grande Barbara, elle l'est devenue l'année de mes débuts.
Vous aviez plein de chansons, mais vous aviez des musiques aussi dans votre cabas, si je peux dire.
Non, j'avais que des musiques que j'avais fabriquées moi-même. Mon premier tube, entre guillemets, sur scène à l'époque, c'était une chanson qui s'appelait « À 15 ans » dont j'avais fait la musique, ouais. Mais qui bastonnait bien au niveau scénique et ça marchait très bien. Et peu à peu, j'ai rencontré des compositeurs, des musiciens qui étaient faits pour ça et sur qui j'écrivais les musiques sur leur musique ou ils écrivaient les musiques sur mes paroles.
Voilà, c'est ça qui a été vraiment déterminant.
Oui, très important. Oui.
Et notamment...
Émile Stern au départ, Gilbert.
Émile Stern, eh oui.
Oui, j'ai même travaillé avec Émile Stern, c'était très amusant.
C'est notre époque, ça.
Ah oui, qui travaillait avec les plus grands auteurs de l'époque, oui. Et j'ai travaillé avec... Oui, ensuite est arrivé pendant mon accident, celui qui a vraiment écrit beaucoup de mes tubes, c'est Yves Gilbert qui est arrivé en 66. Et puis, un peu plus tard, est arrivé pour la l'Eurovision 71, est arrivé Donna.
Alice Donna, bien sûr. Qui a écrit aussi beaucoup pour vous.
Et puis après, elle a écrit notamment, et tout de suite, presque l'une des premières chansons qu'on ait faites ensemble, hors la chanson de l'Eurovision, ça a été « Je suis malade », dans les premières. Hein, c'est très, très étrange, elle était enceinte, et on a écrit, c'est comme un petit miracle, cette chanson.
Une chanson alors que tout le monde connaît. Alors on va pas l'écouter, mais j'en ai choisi une autre qui est aussi un tube que j'adore de cette époque là, on peut dire de vos débuts ou du début de vos grands succès, Une île.
Oui,
vous êtes d'accord?
Ah, je suis d'accord. Oui.
C'est un même mot sur cette chanson.
C'est même musicalement une chanson exceptionnelle, je trouve.
Je trouve aussi.
Une île entre le ciel et l'eau. Sans homme ni bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage, une île, entre le ciel et l'eau, ce serait là, face à la mer immense, là, sans espoir d'espérance, tout seul face à ma destinée, du seul beau cœur d'une forêt, ce serait là dans ma propre défaite, tout seul sans espoir de conquête, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Une cible d'or, tranquille, comme un enfant qui dort, fidèle, à en mourir pour elle, cruelle, à force d'être rebelle, une île, comme un enfant qui dort. Ce serait là, face à la mer immense, là pour venger mes vengeances, tout seul avec mes souvenirs, plus seul qu'au moment de mourir. Ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène, sans joie, sans amour et sans haine, que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi, qui n'aime que toi. Et l'eau, une île sans homme ni bateau, inculte, un peu comme une insulte, sauvage, sans espoir de voyage, une île, cette île, mon île. C'est toi.
Une île, c'est aussi le titre d'un 33 tours, hein, Philips, paru cette année-là, en 1970, Serge Lama, avec des arrangements de Jean Morlier, je précise, parce que ça intéresse toujours les auditeurs de savoir comment sont faits les disques. Mais vous m'avez dit que celui-là était fait, enfin, cette chanson-là était faite d'une façon
très
un peu spéciale.
Oui, c'était, ouais. C'est pas très, j'aime pas beaucoup, pour dire la vérité, cette version d'une île, et je l'ai jamais aimée. Je trouve
pourtant, elle a eu beaucoup de succès.
Oui, elle a eu du succès, mais plus tard d'ailleurs.
Ouais.
Mais je chante mal déjà. Oh. Même au début, si on écoute bien, je chante faux. Et l'arrangement n'est pas exactement... Mais il faut dire que les musiciens avaient été entassés dans le studio.
Ouais.
Et il y avait plus de musiciens que de place. Ce qui fait qu'on m'avait installé dans le couloir avec un micro. Et je chantais en essayant d'écouter, parce qu'à l'époque, ben, on écoutait par des retours, et que, tant bien que mal ce que renvoyait l'orchestre. Alors si on le voit comme ça, on se dit « se débrouille pas trop mal », mais je veux dire que c'est quand même pas le but d'un disque. Et voilà, puis je faisais un petit peu trop de voix dans une chanson qui n'en demande pas autant.
Ah, c'est ça, oui, d'accord.
Oui, alors ça m'énerve un peu quand j'écoute cette version-là, surtout qu'il y en a d'autres maintenant. Il y a la Malamie où il y a une version formidable. Il y a plusieurs versions où, avec des arrangements beaucoup plus réussis.
Vous êtes autocritique, hein, Serge Lama, sur ce que vous avez fait, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est...
Ah oui, je suis avec moi comme avec les autres.
Bien. Et la question des orchestrations, des arrangements, ça, d'une façon générale, ça vous a intéressé au fil des disques, ou vous laissiez un peu ça aux autres? Vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Claude Petit, par exemple, qui est évidemment un des maîtres du genre.
Oui, mais enfin, Jean-Claude Petit, c'était un type, il a fait peu d'erreurs, Jean-Claude.
C'est vrai.
Moi, je lui dois le début de ma réussite, parce qu'il y avait une cohérence dans ses arrangements, même tout au long d'un disque.
C'est ça.
Alors, c'est là que si j'avais eu Jean-Claude Petit 10 ans plus tôt, c'est-à-dire pour faire Une île, pour faire L'aventure en aventure et pour faire tous ces titres-là, je pense que je serais devenu vedette un peu plus tôt.
Ah ben voilà, bel hommage.
Oui, parce que les arrangements, ils faisaient exactement ce qu'il y avait à faire et puis pas autre chose. Et mais le problème de l'époque, c'est que quand vous arriviez, l'arrangement était fait. Il n'était pas question maintenant avec les ordinateurs. Ouais, on vous montre déjà à l'avance le dessin que va être l'arrangement. Quand vous rentrez dans un studio, vous n'êtes pas en état de surprise totale.
Ouais.
À l'époque, on arrivait et on découvrait sa chanson qu'on avait jouée au piano.
Ouais,
on avait chanté la chanson au piano à l'arrangeur.
Et quelqu'un l'avait habillé pour
et
vous.
Et quelqu'un, mais l'avait habillé. Il y a des fois, les vêtements qu'il avait mis, c'était pas tout à fait ça, vous voyez.
Ouais.
Alors c'était la grande surprise ce jour-là.
Ce qui est amusant aussi dans ce disque Une île 1970, je rappelle, c'est qu'il y a un titre avec un certain Maxime Le Forestier à la guitare, qui est un de vos compagnons des débuts. Hein, alors
oui.
Je dois dire, spontanément, on vous situe plutôt dans deux registres quand même assez éloignés de la chanson Le Forestier et vous.
On a fait des chansons ensemble, on a fait des... Ouais.
C'était le post-68 tard,
oui,
un peu Baba
Cool,
etc.
Vous savez, avec mon impresario, on lui envoyait des colis quand il était au service militaire, parce que on l'avait connu, il est plus jeune que moi, Maxime.
Ouais.
On a, je pense, 6 ou 7 ans d'écart, malgré tout. Alors je lui envoyais des colis, tout ça, on se voyait, j'étais très copain avec sa sœur, avec qui il chantait aussi. Et puis on a fait 2 ou 3 chansons ensemble. On en a fait M'amuse. On a fait Edith, une chanson sur Edith Piaf que j'ai chantée. Et j'en ai une autre qu'un jour je voudrais bien chanter. S'il veut toujours garder la musique qu'il avait faite à l'époque, parce que je veux pas qu'il me fasse une musique nouvelle. Je veux faire une musique, cette musique qui voit cette chanson. Alors, comme Maxime peut être têtu par moment,
ah bon,
et moi, je vais être résistant, alors, voilà. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs entre Julien Clerc et lui, parce qu'ils font beaucoup de choses, pas mal, ils ont fait pas mal de chansons. Parce que les deux sont bien trempés, ils savent bien ce qu'ils veulent.
Vous faites beaucoup de duos, mais plutôt avec des femmes, hein.
Ouais. Bah, c'est la vie qui a fait ça, ouais. Un petit peu. C'est l'image qu'on m'a collé dessus. Ouais. Puis vous êtes quand même, que vous le veuilliez ou non,
ouais,
vous êtes quand même prisonnier un tout petit peu d'une image qui est vraie ou fausse.
Oui. Vous êtes assez indépendant de toutes ces obligations, malgré tout.
Oui, mais enfin bon, c'est joli aussi un disque avec des femmes. Ouais, c'est vrai que c'était vrai. Une pote, surtout qu'elles chantaient plutôt bien, les femmes qui étaient dans ce disque-là. Alors c'était une opportunité qui était à saisir, quoi. Je veux dire, c'était une jolie chose, quoi.
Alors on va continuer d'avancer un peu dans le temps, et bah ça c'est l'époque où j'étais un petit garçon et où j'entendais beaucoup
vous
à la radio.
Vous êtes toujours un petit garçon.
Oui, c'est gentil.
Je vous rassure, Benoît.
C'est trop gentil.
Sur le mur il y avait des glycines. Sur le mur il y avait des glycines. Toi tu portais un tablier bleu. toi tu portais un tablier, toujours le nez dans tes bassines, toujours le nez dans tes bassines. En ce temps-là, on se parlait peu, en ce temps-là, on se taisait. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, c'est pas de l'amour, mais ça viendra. Pareil que cousin et cousine, pareil que cousin et cousine. Ça ne doit pas s'aimer d'amour, non, ça ne doit pas parler d'amour. Alors on parlait du beau temps, de la pluie et des fleurs des champs, de la vendange et du labour, mais on ne parlait jamais d'amour. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, c'est pas de l'amour, mais ça viendra. Puis je suis parti en usine, puis je suis parti en usine. Je ne voulais pas être fermier, moi, je voulais être le premier. Merci beaucoup, petit Jésus, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Je suis aimé ou respecté, moi, on me dit vous pour me parler. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, c'est pas de l'amour, mais ça viendra. Pourtant quand je bois des glycines, pourtant quand je bois des glycines, j'ai envie de les arracher, moi, j'ai envie de les arracher. Paraît que t'aurais eu deux filles qui font partie de ma famille, mais comme l'amour ne me dit plus rien, elles n'auront jamais de cousin. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, c'est pas de la haine, mais ça viendra.
Et là, voilà la patte de Jean-Claude Petit avec vous, bah, évidemment, votre, ouais, votre talent.
Les montées de violon sont magnifiques. Il n'y a rien de trop. Ouais. Il y a juste ce qu'il faut. Il a fait. C'est le disque, d'ailleurs, phare de ma carrière. C'est ce qu'on appelle le disque rouge.
Puisque c'est le même que Je suis malade. Hein.
C'est Je suis malade. Voilà. Et puis, il y a quasiment neuf tubes.
Et Les petites femmes de Pigalle.
Sur ce disque, il y a neuf tubes.
Oui, 1973. Ouais, hein. Ouais, ça nous a évidemment tous beaucoup marqués. Puis ces chansons continuent de nous accompagner. Mais justement, c'est une chose qui me frappe beaucoup aussi chez vous, Serge Lama, c'est que vous n'avez jamais rejeté, la tradition de la chanson populaire française. C'est quelque chose que vous avez toujours totalement assumé, même si vous n'avez pas fait que ça, loin de là.
Oui, mais je l'assume toujours. Je dirais même que je la porte sur le dos maintenant, parce qu'on n'est plus très nombreux, hélas.
Oui.
Et j'essaye de suivre la voie depuis Béranger, si vous voulez, d'un certain style de chanson. C'est pour ça que je refuse d'avoir un style, moi. Ouais. C'est-à-dire qu'avoir un style d'une certaine façon, c'est se mettre dans un coin et travailler 5 ans pour écrire Madame Bovary, pour arriver à l'écrire d'une certaine façon, ou comme Céline, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Non, moi, mon style, c'est de couvrir toute la chanson, ouais, avec toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques, et de la servir. Et c'est ça, ce qu'a été ma carrière, c'est ça. J'ai servi ce que moi j'appelle la chanson populaire et la chanson tout court.
Et puis alors il y a un autre aspect où vous êtes un peu unique, c'est au-delà de cet héritage de la chanson populaire, c'est l'amour du musical. Et là, au fond, je dirais, qu'est-ce qui reste à part Aznavour pour avoir ce goût du grand spectacle qu'est le musical au service de la chanson?
Oui, c'est une façon de voir le musical dont, c'est vrai, la plupart des représentants ont disparu. Vous avez cité le dernier.
Le maître Aznavour.
Ce que je fais, effectivement, c'est de la variété. C'est du musical.
C'est le goût de la rencontre avec un grand public aussi.
C'est-à-dire que je donne pas tout au scénographe. La plupart des artistes aujourd'hui, la scénographie est devant le chanteur, ce qui fait que je trouve que le chanteur devient un petit peu un chanteur d'orchestre. Et moi, j'ai refusé ça. J'ai toujours imposé le chanteur devant et la scénographie autour. Ouais. Et ça, je dis pas que c'est pas important, la scénographie. Je dis simplement qu'elle doit s'inscrire autour, les lumières, les machins, tout ce qu'il y a autour. Ça doit pas tuer le chanteur.
En tout cas, vous avez été un des chanteurs qui a eu le goût et l'habitude de jouer devant les plus grandes salles, les plus grands nombres de spectateurs. C'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Je veux dire, votre lien avec le Palais des Congrès, par exemple, les débuts de votre carrière, comme ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. À une époque où d'autres auraient préféré plutôt des ambiances plus intimes, vous aimez cette grande perspective, ce public qui même éventuellement est un peu loin?
Non, je veux dire, j'ai été poussé aussi par les autres, parce ouais. que on n'a pas le choix. On se mesure à d'autres. Il y avait Sardou, il y avait surtout Johnny. Ouais. Et Johnny faisait le Palais des Sports, comme Sardou suivait ce que faisait Johnny, toujours à l'époque. Il faisait un truc aussi qui était plus grand encore. Alors moi, j'ai fait...
Ah oui, il y avait la quête de la grande...
Ben voilà. Alors j'ai créé le Palais des Congrès et j'ai été obligé, évidemment, de l'épauler un peu plus parce que c'est beaucoup plus grand. Mais j'ai fait au Palais des Congrès en deux spectacles différents, deux ans de suite. En 79, j'ai fait 300 000 personnes.
300 000 personnes.
Et 330 000 personnes en 81. Et c'était les records historiques européens dans une seule salle.
Alors on va aborder maintenant un chapitre qui me tient aussi particulièrement à cœur dans cette émission. Nous aimons beaucoup l'opérette, mais aussi la comédie musicale.
Je vais vous conter l'histoire d'un enfant d'Ajaccio qui fera rentrer l'histoire dans son sac à dos.
Qui fera rentrer l'histoire dans son sac à dos.
Sa mère n'était pas stérile, elle fit 12 enfants qui virent le jour dans une île du soleil levant.
Qui virent le jour dans une île du soleil levant.
Il s'en est fallu d'un rien pour qu'il naisse italien, mais grâce à Louis XV, c'est un petit français.
Mais grâce à Louis XV, c'est un petit français.
Le soleil inonde de tous ses rayons l'arrivée au monde de Napoléon. Ce tout petit Corse dont les ambitions puiseront leur force dans le signe du lion. Déjà pour qu'on le remarque, il était né coiffé. On sait bien que les monarques sont aimés des fées.
On sait bien que les monarques sont aimés des fées.
T'as encore frappé ton frère, que ferais-je de toi?
Je serai soldat, ma mère.
Il sera soldat.
Je serai soldat, ma mère.
Il sera soldat.
Ainsi commence l'histoire d'un enfant d'Ajaccio qui a fait rentrer l'histoire dans son sac à dos.
Qui a fait rentrer l'histoire dans son sac à dos.
Le soleil inonde de tous ses rayons l'arrivée au monde de Napoléon. Ce tout petit Corse dont les ambitions dans le signe du lion.
Dans le signe du lion, c'est au tout début donc de Napoléon, l'envol et la gloire. Serge Lama, c'est plusieurs années de votre vie. Hein.
Oui, ça m'a pris grosso modo 10 ans de ma vie. Ai-je eu tort, ai-je eu raison, seul le temps le dira. Parce que ça a été un triomphe absolument gigantesque après, mais j'ai eu un mal fou à l'imposer parce que je trouvais pas de salle d'abord déjà.
Ah bon, ça a été difficile.
Ça a été une bataille, c'est le cas de dire. Ça a été une bataille absolument extraordinaire parce que personne n'y croyait. Vous savez, Napoléon à l'époque c'était un peu mal vu aussi. Moi, je voulais faire une comédie musicale.
Alors les gens ont fini par croire que vous vouliez faire surtout l'éloge de Napoléon. C'est ça, c'était le héros de votre vie. Comme vous lui ressemblez un petit peu, on a l'impression parfois. Alors, d'ailleurs, physiquement, oui. Je veux dire.
Alors que moi, quand j'ai pris Napoléon, moi, je voulais faire le Châtelet. Et c'est parce que le Châtelet, j'ai pas pu l'avoir et qu'on m'a dit qu'en faisant une comédie musicale, j'aurais le Châtelet, j'ai pensé à Napoléon.
À Napoléon.
Je ne connaissais rien de Napoléon. J'avais un ami que j'ai été voir qui m'a donné un livre de Bordenov. Et c'est dans Bordenov, en lisant Bordenov, que j'ai écrit tous mes textes de Napoléon.
Pas de la propagande.
Non, pas du tout. Je l'ai ramené à moi, d'ailleurs. Je l'ai ramené à mon personnage. Je l'ai ramené un petit peu. C'est devenu un grand romantique.
On fait toujours des personnages historiques sont doubles dans une pièce de théâtre, bien sûr. Et la musique, il faut le préciser, toujours de votre compère.
Yves Gilbert.
Yves Gilbert qui a écrit. Comment vous avez travaillé ensemble, ça, pour concevoir l'œuvre?
Il a commencé par essayer de travailler tout seul. Il avait fait quelques titres pas mal. Et puis après, je l'assistais pour être là quand il trouverait quelque chose. Alors j'étais dans sa maison et puis j'étais dans la cuisine et j'écoutais. Et puis tout d'un coup, j'entendais « Oh !» J'ai dit « Il y a quelque chose ». Alors je partais vite, je traversais le couloir et puis je disais « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Et on a travaillé un peu comme ça, d'une façon... et puis après, on était heureux comme des...
Il vous arrive, Serge Lama, parce qu'on sait que ça peut marcher dans les deux sens, d'écrire sur une musique, des paroles?
Bien sûr. Avec Alice Donna, j'ai beaucoup écrit sur des musiques, mais Yves a besoin de paroles pour écrire.
Avec lui, ça se passe plutôt dans l'autre sens.
Mais Alice, on a écrit des chansons qui paraissent d'ailleurs des chansons de texte au départ, et qui sont en fait des chansons que j'ai écrites sur des musiques.
Ouais. Alors, il faut dire que pendant toutes ces années, donc Napoléon, vous avez laissé de côté tout un aspect de votre carrière. Enfin, les disques, les tours de chant, etc. Tout ça s'est arrêté. Hein. Vous vous êtes donné complètement pendant 10 ans à cette aventure, mais quand même extraordinaire.
C'est-à-dire que j'ai arrêté de chanter, on va dire, en 84, et je suis revenu en 95. Et ça fait 10 ans, c'est énorme. Hein. Parce que c'est toute une génération qui passe. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas chanteur, pour vous êtes Napoléon. Ouais. Alors, parce que c'est un personnage qui prend l'image, qui prend beaucoup de place. Alors, il a fallu reconquérir ma place. Ça a été tout un travail aussi, toute une reconquête, mais j'ai pris l'habitude de me battre. Moi, je me suis toujours battu à mes débuts, un peu comme un chevalier féodal qui va de château en château.
Aussi votre accident, vous êtes sorti.
C'est une bataille permanente, ma vie. Là, j'ai recommencé, j'ai pris mon sac à dos, j'ai recommencé, puis je suis revenu en haut à la force du poignet.
Bon, on écoute peut-être encore pour le plaisir un autre extrait de Napoléon.
Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendu, par-delà la foule mauvaise, Marie. Ton regard suspendu sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang, Marie douloureuse, Marie départ, Marie je pars, Marie. J'ai peur, Marie merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton. Mon ardente, ma polonaise, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma polonaise, je suis affamé comme un.
Je vais vous lire une phrase, Serge Lama, de mon ami l'écrivain Yann Moix. Lama se retourne vers l'avenir. Il sait que le passé est la capitale du futur, un lieu de perpétuelle fraîcheur où sans cesse on renaît sans se renier. Les autres sont des stars, lui est un astre. Il tourne de quelques mètres qui lui servent de soleil portatif, Brel, Piaf, Beko. C'est extrait d'un très joli texte.
C'est de Yann Moix, typiquement Yann Moix. Voilà. C'est très flatteur, surtout sous la plume de Yann, mais je ne sais pas si je suis tout ça, mais en tout cas, je voudrais bien l'être.
En tout cas, vous êtes cette voix naturelle, on a l'impression, et il n'y en a pas tellement dans l'histoire de la chanson. Et je me demande, quand je vous écoute, quand je vous réécoute là encore à l'instant, est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous travaillez le chant?
Non, jamais.
Jamais, c'est vrai.
Ça rendait fou mon père.
C'est vrai?
Ça, ouais, ouais, ça le rendait fou parce qu'il me disait, quand je pense le mal que je me suis donné toute ma vie pour travailler ma voix, tout ça, il a les trucs et toi, ouais, t'arrives, tu te lèves presque et tu rentres sur scène. Il m'a dit, c'est...
Jamais une leçon, pas de vocalise avant
jamais,
les concerts,
jamais,
je sais pas.
Moi. Je fais comme tout le monde, je fais comme ça et puis je rentre.
C'est
je touche du bois, mais c'est vrai que je vous dis, le plus étonné, parce que lui, il était de l'école, oui, des grands chanteurs,
oui,
oui. Et c'était lui, il me dit, mais et en plus, ta voix est placée, comment tu l'as placée sans travailler? C'est incroyable. Alors, je lui dis, peut-être parce que j'aime pas travailler.
Ça, je sais pas si c'est vrai.
Ben, on est obligé de travailler, ouais, de toute façon, beaucoup pour obtenir un peu, je dis bien, parce que c'est beaucoup de textes pour peu de textes à l'arrivée,
ouais,
et c'est beaucoup de souffrance pour finalement un tour, la souffrance qu'il y a avant, on peut pas, ouais, l'expliquer, quoi.
Vous êtes un traqueur?
Oui, ouais, ouais, oui, la peur avant la dernière fois à l'Olympia, là, c'était terrible.
Ah oui.
Ah oui, oui, j'ai eu peur un mois à l'avance, quoi. J'étais dans mes petits souliers, je savais pourtant ce que je voulais faire, tout, mais c'est vous savez, c'est toujours c'est toujours la reine, quoi. C'est un peu ouais, le taureau, c'est un peu le torero.
Une petite parenthèse dans toutes ces années Napoléon, où vous êtes éloigné un peu donc de votre première carrière de chanteur. Vous avez aussi, alors là, je crois que c'est vraiment un choix, un plaisir, fait l'acteur dans un certain nombre de pièces de théâtre avec Françoise Dorin, puis une pièce de Sacha Guitry. Toi, comment c'est arrivé ça?
Bah, c'est arrivé que à la suite, comme je faisais déjà un petit peu de comédie dans Napoléon, certains auteurs comme Dorin ont remarqué que j'avais des capacités de comédien,
ouais,
et la facture, elle l'avait écrite au départ pour un homme, ensuite elle l'a donnée à une femme parce que c'est une femme qui lui a proposé de la jouer, et c'était pour Jean-Pierre qu'elle l'avait écrite,
ouais,
et donc elle a refait ce qu'elle avait fait pour Jean-Pierre. Et c'était un personnage heureux, et les gens me voient dans un univers heureux. Je suis un personnage qui, pour, ouais, les gens, est tonique, heureux, énergétique, enfin tout ce qu'on veut. Et qu'en fait, je suis un dramatique. Et j'ai joué ces pièces avec joie. Surtout, j'ai eu l'honneur de jouer Guitry.
Oui, toi, non, mais là aussi, c'est vrai que même si vous avez fait tous les registres dans la chanson, vous êtes quand même un homme qui a souvent une tension, justement, dramatique, une expressivité forte. Et quand vous allez au théâtre, vous allez vers la comédie.
Oui, mais c'est parce que c'est ça qu'on m'a proposé, encore une fois.
Ah,
et,
oui,
et je n'ai pas, je...
Mais Guitry, ça a été un vrai plaisir. C'était un de vos dieux.
Bah, c'était un désir d'enfant, ça. C'est, voilà. J'ai satisfait.
Il allait frapper chez lui.
Voilà, hein, voilà. Quand, ouais, j'étais môme, j'ai été frappé chez lui. Je me suis fait sortir par
Lana Marconi.
Marconi qui m'a dit non, il n'y a pas de rendez-vous, il y a un truc. Mais elle m'a quand même ouvert la porte. Et Guitry, pour moi, c'était Dieu, quoi. C'était,
ah ouais,
parce qu'on entendait beaucoup à la radio à ce moment-là. C'était et puis c'est cet esprit de Guitry qui maintenant peut paraître dépassé pour certains. Mais pour moi, c'est un moraliste, très... Guitry. Quand on lit les choses à plat, on s'aperçoit qu'il a dit des choses tout à fait extraordinaires. C'est un peu un philosophe du XVIIIe siècle encore, Guitry. Et d'ailleurs, il a eu sa période de purgatoire, et maintenant il revient sur les scènes.
Il revient partout,
et tous les ans,
et on voit
avec
que ça n'a pas vieilli.
Et avec un succès formidable.
Et on voit que Guitry, même sans Sacha Guitry, ça marche. Hein.
Ben voilà, voilà, je dirais même qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas Sacha Guitry, parce qu'il ramenait tout à lui.
Mais aujourd'hui, pas de projet de théâtre, de cinéma, non?
Non, je crois qu'il faudrait peut-être que si on me proposait, non, mais alors avec une troupe formidable, un réalisateur, ouais, metteur, ouais, en scène formidable, on me proposerait Don Diègue dans Le Cid.
Ah voilà.
par exemple, orage, au désespoir, au vieillesse, ennemi. Peut-être que ça me gratterait un peu quand même.
Serge Lama, on va écouter un extrait de votre dernier album, parce que le temps passe et il faudrait quand même pas qu'on l'oublie, ce bel album qui a déjà beaucoup de succès. Et on a choisi ce titre, des éclairs et des revolvers, c'est sorti il y a quelques mois. Hein.
Oui, ouais, c'est le titre phare, c'est-à-dire que j'ai écrit trois chansons, j'ai eu trois chansons anciennes que j'ai mises, qui est de mes premières chansons, celle que ma première chanson j'ai écrite, c'est La Ballade du Poète, ça
donne, voilà, qui ouvre qui le disque.
Qui, ouais, donne le titre d'ailleurs, ouais, au disque. Ouais. Et puis ma première chanson d'amour, Comment veux-tu que je la quitte, et ma première chanson un peu rigolote, Dominica, comme ça je donnais un peu aux gens les choses que je faisais déjà entre 11 ans et 13 ans, quoi.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, il y a une chanson qu'on a voulu mettre sur un arrangement de Sergio qui ne fonctionnait pas, Et dans la nuit, j'ai écrit Les éclairs et les revolvers. Et le lendemain, j'ai dit, avant que le disque soit bouclé, j'ai dit, je veux mettre ça là-dedans.
Sergio Tomassi.
Sergio Tomassi.
Qui est
Accordéoniste de grand talent, on va dire. J'allais dire un mot un peu excessif, mais qui mérite parfois. Alors, voilà. Et on a fait cette chanson, quasiment, je l'ai écrite en une heure.
Au rythme où l'on éteint les roses, où l'on assassine la mer, où la jeunesse est sous hypnose et la vieillesse en Alzheimer. Au rythme où le soleil invente sans espoir des millions d'enfants qui sont dans des files d'attente sur la piste des éléphants. Il y aura bientôt que des éclairs, il y aura plus d'eau, il y aura plus d'air. On n'a plus le temps de prédire que le pire est devant nos yeux. On n'a presque plus rien à lire. Les vrais livres sont déjà vieux. À peine le temps d'être un homme, qu'on a vécu plus qu'une vie. Adieu Venise et adieu Rome. On habite tous Pompéi. Il y aura bientôt que des éclairs. Il y aura plus d'eau, il y aura plus d'air. Entends, le monde implose. Ça fait même un sacré boucan. Les gens qu'on aime se nécrosent. Écoute frombir les volcans. Je ne suis pas un moraliste, ni un chaman, ni un curé. Mais dans la foire aux égoïstes, j'ai vu trop de femmes pleurer. Il y aura bientôt que des éclairs. Il y aura plus d'eau, il y aura plus d'air. Bien encastrés dans leur musique, écoutez les mots de demain. Des tsunamis sur l'Atlantique. Amour, ne lâche pas ma main. Je te parlerai du Verlaine pour mieux accompagner ta peur, pour mieux désamorcer ta peine. Je glisserai mon cœur dans ton cœur. Il y aura bientôt des éclairs sortis tout chaud des revolvers.
Un extrait du dernier album de Serge Lama, La Ballade du Poète, c'est le nom de l'album, et cette belle chanson, c'est Des éclairs donc, et des revolvers, un album souvent sombre.
C'est un album qui est à mon image. Je suis rouge et noir, moi. Je suis gris, rouge et noir, voilà. Il y a finalement si peu de chansons gays, alors qu'on me prend pour le chanteur des petites femmes de Pigalle, pour celui de femme, pour celui. Mais il y en a 10% à peine, j'ai compté.
Celle qu'on vient d'entendre, elle figure dans votre tour de chant actuel.
Ah oui, c'est même un gros tabac à mon étonnement, parce que les gens la connaissent pas tellement, en fait.
Ouais. Comment elle se déroule cette soirée qui passe partout en France en ce moment?
Oui, ce soir je suis à Orléans d'ailleurs, je suis en tournée.
Combien de musiciens?
Comment vous dire, il y a une dizaine de musiciens, il y a une mise en scène, c'est-à-dire qu'on emporte tout le décor qu'on avait à l'Olympia, ce qui est quand même lourd. Et il y a des choses absolument magnifiques, il y a des choses qu'il ne faut pas découvrir. C'est une sorte de biographie masquée, je dirais. Et ça commence à la première.
Comme toute votre œuvre.
Et je dirais que la première partie est dans une pensée un peu noir et blanc, si on parle cinéma, et la deuxième partie est en couleur. Voilà, je définirais cette réalisation de cette année de mon tour de chant.
Ça ne vous dérange pas, parfois, aussi pour faire plaisir au public, de redonner aussi un certain nombre de grands tubes au cours des concerts?
Non, parce que j'ai des chansons, moi, vous savez, c'est comme quand si on demandait à un acteur s'il est lassé de jouer un classique. Finalement, mes chansons sont rentrées dans un côté classique et je les interprète comme j'ai envie de les interpréter le soir et comme je suis. C'est-à-dire, je suis malade. Selon le soir, comment vous allez la chanter différemment. C'est un monologue de théâtre. Je suis malade.
Vous avez publié aussi récemment un livre, hein, Sentiments, Sexe, Solitude.
Oui.
Serge Lamas, qui m'a... Dites-moi. Oui.
Que j'aime beaucoup, moi, que je revendique. Il y avait Beck BD qui avait dit qu'il y avait des petits aspects Houellebecq dans certains moments, ce qui m'avait quand même plutôt flatté parce que je suis d'ailleurs, on peut être que fan de Houellebecq parce qu'il n'y a pas tellement de grands écrivains dans le français, voilà.
C'est vrai. Mais ce qui me surprend, au bout du compte, après tout ce que vous nous avez dit sur votre passion d'écrire depuis le plus jeune âge, c'est que vous n'ayez pas publié plus de livres et que finalement votre amour de l'écriture soit allé entièrement vers la chanson, tant mieux pour nous, mais ne soit pas allé aussi vers des quantités de romans, de livres, de poèmes.
Est-ce que vous trouvez que Houellebecq, il publie beaucoup?
Non,
attendez,
pas
alors lui, il est qu'auteur, il fait pas des chansons et il publie pas tellement, hein, au bout du compte. C'est difficile.
Mais vous n'avez jamais eu le désir du roman, par exemple?
C'est de la longueur, vous comprenez. Et j'ai pas l'habitude d'écrire sur de la longueur. Il faut là se mettre à la table de travail tous les jours à la même heure et c'est des choses que je ne sais pas faire, ça je me demande. Alors, même si je fais une bio, je pense que je ferai une bio-roman. Je ne vais pas faire une bio parce que j'ai besoin de ma liberté.
Voilà.
Alors, on n'est pas libre même dans sa vie, d'une certaine façon. Et là, je suis en train de lire tout Jim Thompson, l'auteur américain, que je trouve un immense auteur. Je découvre un auteur qui, pour moi, est parfois plus grand que Céline, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas peu. Et je vois la façon dont j'aimerais un peu me laisser aller.
Alors, Sentiments, Sexe, Solitude, on va se quitter avec une chanson joyeuse et très populaire, il faut quand même. Hein. Mais est-ce qu'on peut encore écouter Les Petites Femmes de Pigalle aujourd'hui, avec les projets de pénalisation des clients, de la prostitution, etc. C'est une chanson qui va devenir très insolente, finalement. Non,
oui, mais les chansons, à toutes les époques, comme les biographies de Marie-Antoinette ou autres, selon les époques, elles ne prennent pas les mêmes tournures.
Exactement.
Alors, il est possible qu'elles redeviennent une chanson très insolente. Effectivement.
Merci Serge Lama.
Merci beaucoup à vous.
Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert debout d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit coup, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle.
est-il besoin de le dire, c'était Serge Lama dans Les Petites Femmes de Pigalle, un enregistrement du 1er juin 2013 qui refermait cette série de rediffusions estivales d'Étonnez-moi Benoît. Nous, on se retrouve dans cette même émission pour la rentrée. Ce sera samedi prochain à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.